Un assassinat. Des divers vols que nous avons commis ensemble, il n'y en a qu'un petit nombre qui vaille la peine d'être raconté, non pas que les autres renferment des détails que j'hésiterais à dire, mais c'est plutôt à cause de l'absence d'incidents qui les rend indifférents au but que je me propose. En général, nos plans étaient si habilement combinés, par Raffles d'ailleurs, que les chances de l'insuccès étaient réduites au minimum avant même que nous eussions commencé notre travail. Notre butin était toujours à peu près le même, car naturellement, les pierres précieuses seules étaient dignes du mal que nous nous donnions et des risques que nous pouvions courir. Bref, nos expéditions les plus fructueuses seraient peut-être les plus ennuyeuses à raconter et aucune ne serait plus mortelle à dire que celle des émeraudes d'Arlaf, qui se passa environ 2 mois après la fameuse semaine de cricket à Mitchester. Cette affaire eut cependant une suite que je voudrais pouvoir oublier plus qu'aucun des vols que nous commîmes ensemble. C'était le soir, après notre retour d'Irlande. J'attendais dans mon appartement l'arrivée de Raffles qui, comme à l'habitude, était parti pour écouler notre butin. Ralph avait ses méthodes à lui pour diriger cette branche si importante de notre commerce, et je lui abandonnais volontiers. Pour faire ce genre d'affaires, il se servait, je crois, de ses déguisements et parlait argot, langue dans laquelle il n'était pas ses maîtres. Il s'adressait toujours au même receleur, qui était ostensiblement un prêteur à la petite semaine bien connue, et en réalité un chenapan aussi remarquable que Raffles lui-même. J'avais été une fois, mais sans être déguisé, trouver ce personnage. Nous avions en effet besoin de capitaux pour arriver à voler les émeraudes auxquelles j'ai fait allusion, et je lui avais tiré 100 de livres sterling au taux qu'on pouvait attendre de ce vieillard à barbe grise, à la parole doucereuse, au sourire ingrat, au salut obséquieux, aux yeux les plus chafouins qui aient jamais brillé sous une paire de lunettes. Aussi le nerf de la guerre et ses dépouilles provinrent cette fois-là de la même source, circonstance qui nous frappa tous les deux. Mais j'étais encore à voir le résultat de notre butin et j'attendais avec une impatience qui grandissait avec le crépuscule. Comme Sir Anne, je restais à la fenêtre, ouverte jusqu'au moment où il me fut impossible de distinguer les figures des passants. Alors je me promenais de long en large, tenaillé par une idée horrible, quand j'entendis ouvrir avec fracas la porte de l'ascenseur. J'étais à bout de souffle au moment où l'on frappa à ma porte d'une façon bien connue. « Dans l'obscurité, » dit Raffles, comme je le faisais entrer. « Eh bien, béni, qu'y a-t-il donc ?»« Oh, rien, puisque vous voilà arrivé, » répondis-je en fermant la porte derrière lui. « eh bien, comment cela a-t-il rapporté ?»« 500 livres. »« Rubis sur l'ongle ?»« Oui, je les ai dans ma poche. »« Brave ami, » m'écriai-je. Ah, vous pouvez soupçonner dans quel état j'étais. Allez, je vais allumer la lumière. Voilà 1 heure que je pense à vous et à vous seul. J'étais assez bête pour croire qu'il y avait quelque chose de cassé. Raffles était souriant quand la lumière blanche éclaira la chambre. Mais en cet instant, je ne m'aperçus pas de la singularité de son sourire, car j'étais encore sous le coup de ma terreur et du soulagement qui venait de se produire. Et dans mon empressement à lui rendre justice, je commençais bêtement par renverser le whisky et faire jaillir l'eau du siphon de soda. Si vous pensiez qu'il était arrivé quelque chose, dit Raffles s'allongeant dans mon fauteuil, tout en allumant sa cigarette et paraissant très intéressé. Et que diriez-vous si quelque chose était arrivé? « Calmez-vous donc, mon vieux camarade. Ce n'est pas la moindre conséquence, et d'ailleurs, C'est enterré maintenant. Une chasse sérieuse et longue, Benny, mais je crois que je me suis bien tiré d'affaire maintenant. Et je remarquai tout à coup que son col était froissé, ses cheveux embroussaillés, ses souliers couverts de poussière. La police ? Murmurai-je haletant. Oh, ça non ! Seulement le vieux Baird. Baird, mais n'est-ce pas à lui que vous avez vendu les émeraudes ? Lui-même ? Mais alors comment se fait-il qu'il vous ait donné la chasse ? Mon cher ami, c'est ce que je vais vous dire si vous m'en laissez le temps. Il n'y a réellement pas de quoi vous mettre dans cet état. Le vieux Baird s'est enfin aperçu que je ne suis pas le vulgaire cambrioleur que je voudrais qu'il me crût. Il a fait tout ce qu'il a pu pour dénicher ma tanière. Et vous trouvez que cela n'est rien ? Ce serait quelque chose s'il avait réussi, mais ce n'est pas encore fait. Ce que je puis affirmer, c'est qu'il m'a donné du fil à retordre. Ah, voilà ce que c'est que d'aller travailler si loin de chez soi. Le vieil animal avait lu l'affaire tout au long ce matin dans son journal. Il savait que le vol avait été commis par quelqu'un qui pouvait se faire passer pour un gentleman, et j'ai vu ses sourcils se lever quand je lui ai déclaré, dans mon plus pur argot, que c'était moi qui avais fait le coup. Je fis de mon mieux pour me tirer de là, mais je jurais que j'avais un complice qui était réellement un gentleman. Cependant, je compris parfaitement que j'étais brûlé. Il cessa de marchander et me paya ce que je demandais, comme si j'étais un bonheur pour lui. Cependant, je sentis qu'il me filait, bien que naturellement je ne sois pas retourné pour m'en assurer. Et pourquoi donc ? Mais mon cher Benny, c'est la dernière chose à faire. Tant que vous avez l'air de ne rien soupçonner, on se tient à distance. Et quand on se tient à distance, vous avez les chances d'échapper. Mais dès que vous faites savoir que vous vous sentez filé, il vous reste que le choix entre la fuite ou le combat. Je ne me suis donc pas retourné, et si jamais vous trouviez dans le même cas, faites comme moi. Arrivé en toute hâte à la gare de Blackfriars, j'ai pris un billet pour Hyde Street, à Kensington, en le criant de toutes mes forces. Et comme le train quittait la gare de Sloane Square, je suis descendu. J'ai monté 4 à 4 l'escalier, je me suis rendu à mon atelier par les petites rues. Puis afin de dérouter les soupçons, je suis resté là pendant l'après-midi. Cependant, tout paraissant calme et rien ne me prouvant que mes craintes d'avoir été filées étaient conformes à la réalité, je sortis enfin, vêtu comme à mon ordinaire, et je tombai dans les bras du vieux Baird. Mais que diable avez-vous fait ? Oh, je commence par le dépasser, comme si je l'avais jamais vu de ma vie, et comme si je ne le voyais même pas à ce moment. Je prends un hansom dans King's Road et je me fais conduire, comme l'éclair, jusqu'à Chatham Station, où je saute sur le quai de la gare sans billet. J'entre dans le premier train que je vise en partance. Je rends à toute vitesse à Richmond, je me précipite dans le métropolitain jusqu'à Charing Cross, et me voici. Oh, je suis prêt à prendre un tub, à me changer et aller au club manger le meilleur dîner qu'on pourra nous servir. Je suis venu vous trouver d'abord, car je craignais que vous ne fussiez inquiet. Allez, venez avec moi, vous ne ferez pas attendre longtemps. Vous êtes sûr de l'avoir dépisté depuis là, dis-je, tandis que nous mettions nos chapeaux. Oh, absolument certain. Mais on peut toutefois s'en assurer encore, dit Raffles s'allant à la fenêtre, où il se tint quelques instants à regarder dans la rue. Tout va bien ? Lui demandai-je. Tout va bien, dit-il. Nous descendîmes et nous nous dirigeâmes bras dessus vers le club d'Albany. Nous restâmes silencieux pendant tout le trajet. Je me demandais ce que Raffles ferait de son atelier et de Chelsea, car c'était jusqu'à cet endroit qu'il avait été filé. Ce point me paraissait d'une importance capitale, mais quand je lui en fis l'observation, Il me répondit évasivement, oh, qu'on avait bien le temps d'y songer. Nous gardâmes le silence jusqu'à Bond Street, où nous fûmes salués par un jeune homme de notre connaissance. Oh, ce pauvre John Rutter, dit Raffles avec un sourire. Il n'y a rien de plus triste que de voir un garçon tourner aussi mal que lui. Il est à moitié alcoolique et perdu de dettes, le pauvre diable. Avez-vous remarqué son regard? C'est bizarre que nous l'ayons rencontré ce soir par ici. C'est, dit-on, le vieux Baird qui le bruine. Ah, ça me ferait un rude plaisir de voir sa peau à celui-là. Son accent était devenu tout à coup furieux. Je le remarquai d'autant plus que ces paroles furent suivies d'un long silence qui dura tout le temps de notre dîner au club, même très longtemps après. Nous étions installés au fumoir pour prendre notre café lorsqu'enfin Raffles me regarda avec un sourire d'une parfaite insouciance et je compris que son accès de mauvaise humeur était terminé. « Vous devez vous demander à quoi je pense depuis si longtemps, » dit-il. « Je suis en train de me dire que c'est une fameuse stupidité que de faire les choses à moitié. »« Eh bien, » dis-je en souriant, « c'est bien là une accusation que vous ne pouvez élever contre vous-même, n'est-ce pas ?»« Bon, je suis pas si sûr que cela, » dit Raffles tout en lançant une bouffée de fumée d'un air méditatif. « Au fait, je pensais moins à moi-même qu'à ce pauvre diable de John Rutter. » Voilà qui fait les choses à moitié. Il n'a qu'à moitié tourné mal et voyez la différence entre lui et nous. Le voilà sous la coupe de ce maudit usurier et nous sommes des hommes solvables. Il s'est mis à boire. Notre sobriété est égale à notre solvabilité. Ses camarades commencent à le lâcher. Nous, au contraire, ce qui nous est difficile, c'est de les tenir à distance. Enfin, il mendie, il emprunte, ce qui est à moitié volé, tandis que nous nous volons réellement, et tout est dit. Évidemment, notre genre de vie est bien le plus comme il faut. Cependant, je ne suis pas convaincu, Ben Nick, qu'en ce moment, nous ne soyons pas nous-mêmes en train de faire les choses à moitié. Mais comment cela? Que pouvons-nous faire de plus? M'écriai-je. « Que faire de plus ?» s'écria Raffles. « Mais, bon, commettre un assassinat, par exemple. »« Quelle horreur !»« Bon, c'est une question d'opinion, mon ami, mon cher Benny. Je ne considère pas cela comme une horreur. Je vous ai déjà dit que le plus grand homme qui existe est l'assassin qui n'a pas été découvert. Tout au moins, il doit se sentir tel. » Mais il peut rarement s'apprécier lui-même. Pensez-y. Songez donc à la satisfaction de venir au club, de parler aux uns et aux autres de l'assassinat, de savoir en soi-même que c'est vous qui l'avez commis, et de vous demander en vous-même quelle tête il ferait s'il le savait. Ce serait splendide, tout bonnement splendide. Et après tout, si vous veniez à être pris, vous seriez un auteur dans l'apothéose finale. Votre nom remplirait les journaux pendant quelques semaines, et vous vous éteindriez au milieu d'éditions spéciales. Mon bon vieux Raffles, dis-je en riant, je commence à vous pardonner d'avoir été si maussade pendant le dîner. Mais je n'ai jamais parlé plus sérieusement qu'en ce moment même. Alors continuez, mais je suis très sérieux. Mais vous savez très bien que quoi que vous fassiez, vous ne pourriez jamais commettre un assassinat. Mais ce que je sais bien, c'est que je vais en commettre un cette nuit. Il était resté allongé dans son fauteuil et m'avait regardé avec ses yeux perçants que voilaient ses cils langoureux, puis il se redressa. Les yeux brillèrent comme l'acier d'un poignard qu'on sort de sa gaine. Mon intelligence s'ouvrit tout à coup. Il n'était plus possible de douter. Moi qui le connaissais si bien, je lisais le mot assassinat écrit sur ses mains crispées, Sur ses lèvres serrées, je voyais l'assassinat peint dans ses yeux bleus devenus si durs. « Bert ?» murmurai-je en passant ma langue sur mes lèvres. « Bien entendu. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, à propos de votre atelier de Chelsea, que cela n'avait pas d'importance. Je vous ai dit un mensonge. Mais puisque vous avez pu ensuite le dépister, c'est encore un mensonge. Je ne l'ai pas dépisté. Je croyais l'avoir fait quand je suis arrivé chez vous ce soir. Mais quand je regardais par votre fenêtre pour m'en assurer, vous vous rappelez, il était là, sur le trottoir, en face. Et vous ne m'en avez pas soufflé mot. Je ne voulais pas gâter votre dîner, Bunny. Je ne voulais pas que vous gâtiez le mien, mais il était là, bien en vie. Mais naturellement, il nous a filés jusqu'à l'Albanie. C'est une belle partie à jouer pour lui, une partie qui est tout à fait dans ses cordes. Me faire le chantage et obtenir en même temps les subsides de la police. Bon, il ne jouera pas ce petit jeu-là avec moi. Je ne laisserai pas vivre assez pour le faire. Et le monde aura un maître chanteur de moins. Les garçons, deux whiskies écossais et des sodas. Je vais partir à 11 h, Bunny. Voilà ce qu'il me reste à faire. Vous savez donc où il habite? Oui, du côté de Willesden. Il vit tout seul. Bon, c'est un vieil avare, en plus de ses autres qualités. Il y a longtemps que je me suis procuré des détails sur lui. Je jetai de nouveau les yeux autour de la pièce. C'était un club de célibataires et de tous côtés, des jeunes gens riaient, buvaient, fumaient, causaient. L'un d'eux me salua à travers la fumée. Machinalement, je lui répondis, et je me retournai vers Raffles en gémissant. « Oui, oh, vraiment, laissez-lui une chance à courir, suppliai-je. La vue seule de votre revolver le fera peut-être accepter vos conditions. » Mais elle ne le forcerait pas à les exécuter. Vous pourriez toujours en essayer l'effet. Bon, c'est ce que je ferais probablement. Buvez donc ceci, Bunny, et souhaitez-moi bonne chance. Je vous accompagne, mais pas besoin de vous. Mais je veux vous suivre. Un regard terrible éclaira ses yeux bleus. Pour vous interposer, dit Raffles. Non. « Bon, donnez votre parole. »« Je vous la donne. »« Bunny, si vous y manquiez, vous pourriez me tuer aussi. »« Mais c'est ce que je ferai certainement, » dit Raffles gravement. « Ainsi vous venez à vos risques et périls, mon cher ami. »« Mais si vous y venez, eh bien, le plus tôt sera le mieux, car il faut que je m'arrête chez moi en sortant. » 5 minutes après, je l'attendais à l'entrée du club Albany qui donne sur Piccadilly. J'avais un motif de l'attendre dehors. C'était le sentiment, moitié d'espoir, moitié de crainte, qu'Angus Bird se trouverait encore sur notre piste et qu'une solution plus immédiate et moins sanguinaire pourrait être le résultat d'une entrevue entre l'usurier et moi. Tout en ne le prévenant pas du danger qu'il courait, je m'efforcerais d'empêcher le drame de se produire. Cette rencontre n'eut pas lieu, et lorsque Raffles et moi nous nous mîmes en route dans la direction de Willesden, j'avais encore dans le cœur cette résolution honnête. Je ne voulais pas manquer à ma parole, mais c'était une satisfaction pour moi de sentir que je pouvais le faire si je le voulais, tout en supportant les conséquences. Hélas, je crains bien que mes bonnes intentions n'aient été en réalité qu'inspirées par une curiosité dévorante et une certaine fascination qui accompagne toujours la terreur. Il nous fallut 1 heure pour arriver à la maison. Nous traversâmes à pied le parc Saint-James. Je vois encore la lumière des becs de gaz qui brillait fixe sur le pont et miroitait dans la rivière. Nous dûmes attendre quelques minutes avant de prendre le dernier train pour Willesden. Il partait, je me rappelle, à 11h21, et Raffles parut contrarié quand on lui eut dit qu'il n'allait pas jusqu'à Kensal Rise. Nous fûmes obligés de descendre à l'embranchement de Willesden et de marcher à travers les rues jusqu'à la campagne qui m'était absolument inconnue. Je ne pouvais même pas retrouver la maison. Je me rappelle cependant que nous nous trouvions dans un sentier obscur qui traversait les bois et les champs quand nous entendîmes sonner minuit. Bon, nous allons sûrement le trouver endormi dans son lit. « Je l'espère bien !» dit Raffles durement. « Alors, vous allez fracturer la porte pour entrer ? Qu'aviez-vous donc pensé ?»« Bon, je n'avais songé à rien du tout. L'idée d'un assassinat avait absorbé toutes mes pensées. À côté de cela, un cambriolage est une bagatelle, mais qu'il vaut mieux néanmoins éviter. J'y vois du reste de sérieuses objections. » Le bonhomme doit connaître la manière dont opèrent les voleurs et a certainement des armes à feu dont il sera peut-être le premier à se servir. « Je demande pas mieux, » dit Raffles. « Ce sera alors une lutte d'homme-homme. Tant pis pour celui qui écopera. Vous doutez pas, n'est-ce pas, que je préfère jouer franc jeu. Mais il faut qu'il meure ou nous sommes flambés, vous et moi. » Oui, il vaudrait mieux malgré tout que ce fût nous. Alors restez où vous êtes, mon bel ami. Je vous ai dit que je n'avais pas besoin de vous. Mais voici la maison, allons, bonsoir. Je ne voyais aucune maison, mais seulement l'angle d'un mur élevé qui se dressait, solitaire, dans la nuit, tandis que les éclats de verre qui le couronnaient brillaient à la lueur des étoiles. Ce mur était percé d'une large porte verte hérissée de dards, capable de résister à un bélier, ainsi que je pus m'en rendre compte, grâce à la lueur d'un bec de gaz. Cette route me parut être un chemin établi sur les terrains à bâtir. Il n'y avait qu'une seule maison, celle-là. Raffles avait examiné les lieux de jour et avait tout préparé en vue des obstacles qu'il pourrait rencontrer. Il avait déjà pris la précaution de placer des bouchons de champagne sur les dards surmontant la porte. Un instant plus tard, il avait posé son pardessus plié sur les bouchons. Je me reculais tandis qu'il s'enlevait, puis je le vis disparaître et je m'élançais aussi. Je reposais de tout mon poids sur le pardessus qui recouvrait les bouchons et les dards, quand il se mit à tirer vers lui ce vêtement. « Vous venez donc ?»« Oui. »« Alors attention, il y a partout des sonnettes et des pièges. »« C'est pas une besogne facile. »« Voilà, restez ici pendant que j'enlève les bouchons. » Le jardin était tout petit et installé depuis peu. La pelouse était encore formée de mottes de terre, mais des buissons de laurier étaient plantés dans des corbeilles seulement tracées. « Mais ce sont de véritables sonnettes !» murmura Raffles. « Il n'y a aucun arbre pour faire entendre un pareil frémissement. »« Il la connaît, le vieux !» Tout en traversant le gazon, nous eûmes soin de ne pas nous en approcher. « Il est au lit ?» « Oh, je ne le crois pas, Benny. Je pense au contraire qu'il nous a vus. »« Pourquoi donc ?»« Ben, j'ai aperçu une lumière. »« Où ?»« En bas, il y a un instant, quand je... » Il se tut. Nous venions tous deux de revoir la lumière. Elle formait comme une raie dorée sous la porte de devant, puis elle disparut pour réapparaître comme un fil d'or sous le linteau, puis elle s'éteignit entièrement. Nous entendîmes l'escalier craquer et tout bruit cessa. Nous ne vîmes et n'entendîmes plus rien, et cependant nous restâmes là, debout et immobiles sur le gazon, à ce point que nous sentions l'humidité de la rosée traverser nos chaussures. « Je vais entrer, » dit enfin Raffles. « Oh, je ne crois pas qu'il nous ait vus, je le regrette. Venez par ici. » Nous marchâmes avec précaution dans le sentier. Mais le gravier, qui s'attachait à nos semelles détrempées, se mit à grincer quand nous pénétrâmes par une porte vitrée sous une véranda d'allée. Et c'était à travers les carreaux que Raffles avait tout d'abord aperçu la lumière. Il se mit en devoir d'enlever une vitre avec le diamant, le pot de glu et une feuille de papier qu'il n'oubliait jamais dans son attirail. Il ne refusa pas mon concours, mais il l'accepta peut-être instinctivement comme il était offert. En tout cas, ce furent mes doigts qui étendirent la glu sur le papier et qui le collèrent contre le carreau jusqu'au moment où le diamant eut fait le tour du verre et que celui-ci fut tombé doucement entre nos mains. Raffles tourna la clé dans la serrure et allongea le bras pour tirer le verrou et la porte s'entr'ouvrit. « Que cela ?» dit Raffles en écrasant avec ses pieds un objet qui se trouvait sur le seuil. « Une paire de lunettes !» murmurai-je en les ramassant. Et j'étais en train de palper la monture quand Raffles buta contre quelque chose, faillit tomber et laissa échapper un cri d'effroi qu'il ne put retenir. « Chut, mon ami, chut !» suppliai-je à voix basse. « Il va nous entendre !» Comme réponse, je n'entendis que le claquement de ses dents, oui, des siennes, tandis qu'il cherchait ses allumettes. « Non, Benny, il ne nous entendra plus !» murmura Raffles. Et s'étant relevé, il alluma le gaz avec l'allumette. Angus Baird était étendu mort sur le parquet, ses cheveux gris collés par le sang. Près de lui se trouvait un tisonnier dont le bout noir luisait. Dans un coin, son bureau dans le plus grand désordre. On entendait sur la cheminée le tic-tac de la pendule, et pendant quelques instants, ce fut le seul bruit qu'on put percevoir. Raffles resta debout, calme, fixant le cadavre comme un homme regarde un précipice, après s'être approché du sommet. Sa respiration soufflait à travers ses narines. Il ne faisait aucun geste. Ses lèvres semblaient scellées. « La lumière » dis-je d'une voix rauque. « Mais la lumière que nous avons déjà vue sous la porte !» Il sursauta et se tourna vers moi. « Oh, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est par ici que je l'ai vue d'abord. Il doit être en haut. » « Oh, s'il y a, nous le dénicherons bientôt. Venez !» Je posai la main sur son bras en le suppliant de réfléchir. Son ennemi était mort à présent, nous serions certainement compromis. C'était le moment de fuir. Il me repoussa avec une impatience soudaine. Ses yeux avaient l'expression d'une insouciance méprisante. Il me dit que, si je le voulais, je n'avais qu'à sauver ma peau. Puis il me tourna le dos, me laissant presque résolu à le prendre au mot. Avait-il oublié le motif qui l'avait amené ici cette nuit-là? Était-il résolu à la terminer par un drame final? Tandis que je me posais ces questions, une nouvelle allumette éclaira le vestibule. Un instant plus tard, l'escalier cria sous ses pas, de même qu'il avait crié sous ceux de l'assassin. L'instinct humain qui l'inspirait, malgré les risques à courir, commença à se faire jour dans mon intelligence moins vive. Pouvions-nous laisser échapper l'assassin ? Comme réponse, je me hâtai de monter rapidement l'escalier criard et d'atteindre Raffles sur le palier. À cet endroit, il y avait trois portes. La première s'ouvrait dans une chambre à coucher, dont le lit était préparé, mais la seconde pièce était entièrement vide. La troisième porte était fermée à clé. Raffles alluma le gaz du palier. « Il est là !» dit-il en armant son revolver. « Vous rappelez-vous comment nous faisions l'assaut des salles d'études au collège ? Eh bien, voici !» Son pied s'aplatit sur le trou de la serrure, le pen céda, la porte s'ouvrit, et dans le courant d'air, le gaz du palier vacilla comme un navire dans la tourmente. Quand la flamme redevint droite, j'aperçus une baignoire, deux serviettes éponges nouées ensemble, une fenêtre ouverte, une taille affaissée et Raffles s'arrêtait ébahi sur le seuil. « John Rutter !» Ces mots sortirent de ses lèvres, lentement, avec horreur. Et sous l'empire du même sentiment, je m'entendis les répéter, tandis que la figure affaissée près de la fenêtre de la salle de bain se releva graduellement. « C'est vous ?» murmura celui-ci, non moins étonné que nous-mêmes. « C'est vous deux ?»« Mais qu'est-ce que cela veut dire, Raffles ?» Je vous ai vu escalader la porte, une sonnerie s'est faite entendre, l'immeuble en est rempli, puis vous avez fracturé, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais vous le diront peut-être, quand vous nous aurez appris ce que vous avez fait, pardieu Rutter. Fait ce que j'ai fait. Le misérable arriva en pleine lumière, les yeux injectés, clignotant, le devant de sa chemise tout ensanglanté. Mais vous le savez, vous avez tout vu. Mais je vous le répéterai de nouveau, si vous voulez. J'ai tué un voleur, voilà tout. Oui, j'ai tué un voleur, un usurier, un chacal, le plus cruel et le plus habile bandit qui ait jamais évité la corde. Je suis prêt à être pendu, quand je le tuerai de nouveau. Il nous regarda furieusement en face, avec des yeux qui nous jetaient un défi. Sa poitrine se soulevait, sa mâchoire était comme un roc. « Faut-il vous dire comment cela s'est passé ?» continua-t-il avec colère. « Voilà des semaines et des mois qu'il a fait de ma vie un enfer, vous le savez peut-être, un véritable enfer. Et ce soir, je l'ai rencontré dans Bond Street. Vous vous rappelez quand je vous ai rencontrés aussi. Il était à 20 pas derrière vous et il vous suivait, Raffles. » Il m'a vu vous saluer, il m'a arrêté pour me demander ce que vous étiez. Il grillait de le savoir, je ne pouvais pas deviner pourquoi, et cela m'était d'ailleurs bien égal. Je ne vis là qu'une chance à courir pour moi. Je lui dis que je lui donnerais sur vous tous les détails s'il voulait me recevoir en particulier. Il refusa. J'insistais en le tenant par son pardessus. Et quand je le laissais aller, vous étiez hors de vue et j'attendis à cet endroit jusqu'à ce qu'il revînt désespéré. Je tenais la corde à ce moment. Je pouvais fixer où aurait lieu l'entrevue. Je le forçais donc à me ramener chez lui, jurant toujours de lui dire mon secret quand nous aurions terminé notre conversation. Et lorsque nous fûmes arrivés ici, je l'obligeais à me donner à manger, retardant toujours ce qui t'intéressait tant. Et vers 10 heures, j'entendis fermer la porte. J'attendis un instant, je lui demandai s'il vivait seul. « Pas du tout, » me répondit-il. « Vous n'avez pas vu ma servante ?» Je déclarai que je l'avais vue, mais que je l'avais entendue partir, et que si je m'étais trompé, je n'avais qu'à appeler pour la faire venir. J'élevai la voix et l'appelai à 3 reprises de toutes mes forces. Naturellement, il ne vint personne. Je le savais, car j'étais déjà venu le voir un soir de la semaine dernière. Il m'avait parlé à travers la barrière qu'il n'avait pas voulu ouvrir. Et quand j'eus fini de crier, sans qu'âme qui vive se fût présentée, il était devenu aussi blanc que le plafond. Je lui dis alors que nous allions enfin pouvoir causer. Et saisissant le tisonnier près du garde-feu, je lui déclarai qu'il m'avait volé et que, pardieu, il ne me volerait plus. Et je lui donnai 3 minutes pour écrire et signer une quittance de toutes ces créances frauduleuses. Sinon, je lui ferais sauter la cervelle sur le tapis. Il réfléchit un instant, puis il alla à son bureau chercher une plume et du papier. Puis 2 secondes après, prompt comme l'éclair, il se rua vers moi, un revolver à la main. Je sautai sur sa tête chauve. Il fit feu 2 ou 3 fois et me manqua. Vous trouverez les traces des projectiles si vous le voulez. Mais moi, je ne le manquais pas. Et j'agis comme un sauvage jusqu'à ce que la chose fût terminée. Puis tout me devint indifférent. Je fouillais tous ces tiroirs pour y trouver mes billets. J'allais partir quand vous êtes arrivés. Je viens de vous dire que tout est peut-être indifférent, mais c'est encore la vérité. J'étais décidé à me faire arrêter cette nuit, et c'est ce que je vais faire. Je ne vous donnerai pas beaucoup de peine. Il était à bout de force, et nous restions pourtant sur le palier de cette maison isolée. Sa voix basse, faible, mais ardente, résonnait encore à mes oreilles. Le cadavre était en bas, nous avions devant les yeux l'assassin, ne témoignant aucun regret. Je savais, bien sûr, qui cet absent de remords ferait un effet certain, et je ne me trompais pas. « Tout cela est idiot, » dit Raffles après un instant de silence, « mais nous ne vous laisserons pas vous constituer prisonnier. » Vous ne me laisserez pas faire? Oh, quoi bon? La femme m'a vu. Ce serait qu'une question de temps, et je ne veux pas attendre qu'on m'arrête. Pensez-y. Oui, attendre qu'on me mette la main au collet. Oh non, 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 non. Je me constituerai prisonnier et tout sera dit. Sa voix était changée, hésitante. On eût dit qu'une perception plus nette de sa position lui était venue, avec la seule idée de pouvoir s'échapper. « Mais écoutez-moi donc, » supplia Raffles, « nous sommes en péril nous-mêmes. Nous sommes entrés comme des voleurs pour qu'il nous rende raison, car il avait envers vous des torts semblables à ceux qui nous lui reprochiez. Ne voyez-vous pas? Nous avons brisé une vitre comme de véritables cambrioleurs, et on nous mettrait sur le dos tout le reste. Vous voulez dire qu'on ne me soupçonnerait pas? Certainement. Mais je ne veux pas m'échapper !» s'écria Rutter avec une violence folle. « Je l'ai tué, je le sais. J'étais en état de légitime défense, c'était pas un assassinat. J'avouerai, je supporterai les conséquences, sinon je deviendrai fou. » Ses mains s'agitaient, ses lèvres tremblaient, il avait les larmes aux yeux. Raffles le secoua vivement. « Alors vous êtes stupide. » Si l'on nous surprenait ici tous les trois, savez-vous quelles seraient les conséquences? D'ici 6 semaines, nous nous balancerions pendus en rond dans la prison de Newgate. Vous parlez comme si nous étions tranquillement au club, mais vous ne savez pas qu'il est 1 heure du matin et que nos lumières brillent et qu'il y a un cadavre en bas? Pour l'amour de Dieu, ayez du sang-froid comme nous et faites ce que je vous dis ou bien vous êtes un homme mort. « Tu voudrais l'être, » sanglota Rutter. « Je voudrais avoir son revolver pour me faire sauter la cervelle. Il doit l'avoir près de lui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Ses genoux s'entrechoquaient. La réaction se faisait avec la plus forte intensité. Nous fûmes obligés de le descendre entre nous deux et de le conduire à l'air frais. Tout était silencieux au dehors. On n'entendait que les sanglots étouffés du misérable. Raffles rentra un instant dans la maison et l'obscurité se fit complète. Nous ouvrîmes la porte d'entrée et la refermâmes soigneusement derrière nous. Nous laissâmes les étoiles éclairer la vitre brisée et les dards polis. Rien semblait n'avoir changé. Nous nous enfuîmes. Oh, je n'insisterai pas sur notre fuite. Notre assassin voulait à tout prix monter sur l'échafaud. Son crime l'affolait à tel point qu'il nous donnait plus de mal que 6 hommes ivres. Plusieurs fois, nous dûmes le menacer de l'abandonner à sa destinée et de nous désintéresser de lui. Mais nous eûmes une chance incroyable autant qu'il méritait. Nous allâmes à pied jusqu'à Maida Valley et de là, en voiture, jusqu'à mon appartement. Je montai seul l'escalier, car mes deux compagnons se rendirent de suite à Albany, et je restai 48 heures sans voir Raffles. Il n'était pas à son appartement quand je m'y présentai le lendemain matin, et il était parti sans rien dire. Quand je le revis, les journaux ne s'occupaient que de l'assassinat, et celui qu'il avait commis voguait sur un transatlantique, allant de Liverpool à New York. « Il a été dur à décider, » me dit Raffles. « Il voulait soit avouer, soit quitter le pays. Je l'ai habillé à mon atelier et nous avons pris le premier train pour Liverpool. Rien ne pouvait le calmer ni lui faire apprécier la situation comme je l'eusse fait moi-même. Il vaut peut-être mieux qu'il en soit ainsi. Je suis allé à son appartement pour déchirer certains papiers. Et devinez ce que j'ai trouvé? La police, avec un mandat d'arrêt décerné contre lui. Ce sera pas ma faute si l'on s'en sert jamais. Et comme il y a des années que cela s'est passé, je ne crois pas que ce soit davantage la mienne.